Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuna.
La grande part du budget alloué au fonctionnement des institutions ne pourra pas permettre au gouvernement de s'occuper des besoins prioritaires de la population. C'est en substance la réaction de la société civile contenue dans un mémo qu'elle a déposé à la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Des réactions fusent de partout au lendemain de la condamnation du chef milicien Tcheka qui œuvrait dans le Nord Kivu. Note de satisfaction par exemple pour les avocats des victimes ainsi que les victimes elles-mêmes. Et puis, l'invité de ce journal, Rodin Aouchi, ministre provincial du Plan au Sud Kivu, il nous parle du lancement des projets du Fonds de cohérence pour la stabilisation à Uvira, des projets menés par 3 consortiums en partenariat avec la MONUSCO et le STAREC. Avant d'aller plus loin, sachez que des détonations à l'arme lourde seront entendues ce mardi à Kibomango, dans la partie est de la capitale Kinshasa. L'armée invite la population, particulièrement les habitants de la commune de Lancélé, à ne pas paniquer. L'armée précise qu'il s'agit des essais des armes lourdes qui seront menées par des militaires venus de Mbanzangungu dans le Congo central. Encore une fois, soyez sans crainte. Madame, messieurs, bonjour. Le budget 2021 reste essentiellement de consommation au regard de l'importance des crédits alloués à la rémunération, soit 42% du budget général, d'après la société civile congolaise qui a fait ce constat dans son rapport d'analyse du budget 2021. Le fonctionnement des institutions risque d'exproprier toutes les recettes de la République, privant ainsi aux secteurs sociaux de base des moyens nécessaires. Le réseau gouvernance économique et démocratie REGED plaide donc pour un budget pro-pauvre qui affecte des moyens conséquents, notamment dans les secteurs de la sécurité, la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des mines et des infrastructures. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Dans son analyse, la société civile s'interroge sur la crédibilité de la prévision budgétaire estimée à 6,9 milliards de dollars. Pour elle, comment la croissance économique pourrait-elle progresser de moins 1,7% en 2020 à 3,2% en 2021 dans un contexte de destruction des tissus économiques par la pandémie de COVID-19? Le REGED déplore par ailleurs que ce projet de budget consacre toutes ses recettes à la rémunération et au fonctionnement des institutions. Elle recommande donc que ce budget finance le secteur pro-pauvre à l'aide des ressources dégagées dans la réduction des trains de vie élevés des institutions et certains ministères. Elle suggère à cet effet la diminution à hauteur d'au moins 50% des frais de fonctionnement des institutions et administrations publiques, la réduction des écarts des rémunérations, la retenue de 10 à 30% des rémunérations des élus et du personnel politique du gouvernement, la réduction des avantages reconnus aux anciens présidents de la République élus, la suppression des avantages accordés en plus de leurs indemnités de sortie aux anciens chefs des corps constitués, ainsi que la réduction de la taille du gouvernement.
Pendant ce temps, au Sud Kivu, les prévisions budgétaires du gouvernement provincial pour l'exercice 2021 connaissent une régression de plus de 26%, une situation due à la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. Le dépôt de ce projet de budget à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a eu lieu aujourd'hui. Explication, Emmanuel Elamiji.
Les prévisions budgétaires pour l'année 2021 sont évaluées à plus de 264 milliards de francs congolais. Ce projet de budget a été retenu au cours du récent Conseil des ministres provinciaux sous la conduite du gouverneur de province. Alors que pour l'exercice 2020, le budget était de l'ordre de plus de 280 milliards de francs congolais, ce qui affiche un taux de régression d'environ 26%. Le gouvernement provincial explique cette situation par la crise économique due à la maladie des coronavirus. Ainsi, ce budget 2021 sera orienté vers les actions d'atténuation et anticipation des effets négatifs des coronavirus. C'est notamment la riposte, la surveillance, le renforcement du système de santé, le maintien de la stabilité macroéconomique et la relance de l'économie, sans oublier l'atténuation des risques et soutien aux populations et autres groupes vulnérables. Les députés provinciaux ont donc le temps d'étudier, amender et adopter afin de doter le gouvernement provincial du budget définitif 2021 avant le 30 décembre prochain. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'arrestation hier de Kimbembe Mazunga et Laya Sinsou, anciens directeurs généraux de la Société commerciale des transports et des ports, SCPT. Ils ont été placés en détention préventive à la prison centrale de Makala par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Selon les sources du parquet, ils sont poursuivis pour détournement des deniers publics et faux en écriture. Kimbembe fut un ancien conseiller de l'ex-président de la République Joseph Kabila en matière des infrastructures et aussi ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Et puis, fini la polémique sur le choix de la banque devant régorger le compte des affaires étrangères concernant les frais que devra générer la vente des passeports en RDC. Faisant suite à la lettre de la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, autorise à sa collègue d'ouvrir un compte à la FBN Bank. Plus de détails avec Enoch Matondo.
Le choix de la FNB Bank par le ministère des Affaires étrangères s'explique par rapport aux avantages que cette dernière offre, comme l'explique Claude Chimpanga, président de la délégation syndicale du ministère des Affaires étrangères.
Par rapport à la traçabilité des faits, par rapport à l'information en ligne qu'elle offre aux affaires étrangères ou à toute autre personne qui veut suivre l'évolution des ventes des passeports, comme par exemple donner, même à son excellence Madame la ministre des Affaires étrangères, un dispositif internet dès qu'on paye l'argent à n'importe quelle agence directement, madame peut suivre. De la même manière, le ministre des Finances peut aussi suivre. Même le président de la République, s'il veut suivre la vente des passeports aux affaires étrangères en ligne.
Dans sa lettre du 23 novembre, Sélé Yalagouli autorise au ministre des Affaires étrangères d'ouvrir un compte séquestre dont ses livres. Le compte s'intitule Contrat gouvernement Logosem, passeport biométrique. Le ministre des Finances, dans un autre courrier, adresse à la direction générale de la FNB Bank, demandant l'ouverture du dit compte. Les oreilles des requérants des passeports sont désormais orientées vers le ministère des Affaires étrangères pour la date du démarrage de la délivrance des passeports.
Je vous le disais en titre, quelques heures après l'arrêt rendu hier par la Cour militaire opérationnelle à Goma dans le procès Tcheka et consorts, l'heure est aux réactions. Pour les avocats des victimes ainsi que les victimes elles-mêmes, c'est la satisfaction alors que pour la défense de Tcheka, d'autres mécanismes pourraient être amorcés pour contourner la décision rendue. Le condensé de ces réactions avec Gabriel Ouaménia.
La réaction des avocats des victimes ne s'est pas fait attendre. Maître Kaindo Fatouma, avocat au barreau du Nord Kivu.
Le grand message qui est lancé, c'est la lutte contre l'impunité. Voir un monsieur comme Tcheka, il s'est présenté comme un intouchable. Pour nous, les avocats des parties civiles, c'est un ouf de soulagement.
Ce jeune homme, dont le père a été égorgé par Tcheka à Bunyampuri, ne cache non plus sa satisfaction.
Tcheka
a tué mon père à Bunyampuri. La condamnation de Tcheka vient essuyer mes larmes. Pour la défense de Tcheka, d'autres mécanismes juridiques seront actionnés pour contourner cet arrêt. Maître Alexis Olenga.
Ça fait très mal parce que c'est une juridiction dont l'existence viole les prescrits constitutionnels. Bon, on va trouver d'autres mécanismes, voir comment bousculer que cette situation change.
De son côté, les responsables de la thématique et bonne gouvernance de la société civile pensent que la cour a tapé à côté en acquittant l'infirmier de Tcheka, Étienne Kambalé.
L'infirmier qui a mis des soins et a fait tenir de guerre, nous pensons que la partance n'a pas été suffisante.
Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Capi.
Pendant ce temps, en Ituri, des éléments du groupe armé Force de Résistance Patriotique FRPI multiplient des pillages des biens de la population dans le territoire d'Irumu. Le cas récent, c'était dans la nuit du dimanche à hier lundi dans la chefferie de Baïma Sud. Ceci porte à 18 le nombre des personnes victimes d'extorsion de leurs biens sur l'axe routier Kaseni, Nyamavi, Kaliabugongo, où ces miliciens sont retranchés pour commettre ces forfaits. Ézéchiel Mouzalia.
Plusieurs habitants, dont la plupart sont des commerçants, sont devenus la cible d'attaque de ces miliciens. Munis d'armes à feu, des machettes, des couteaux et des lances, ces inciviques barricadent des accès routiers dans des zones où il n'y a pas la présence des forces de l'ordre. C'est à ces endroits qu'ils extorquent de l'argent, des téléphones portables et d'autres biens de la population. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier sur l'axe Kapuru-Kaliabugongo, situé à 30 km de Kasenyi Centre dans la chefferie de Baïma Sud, où où 5 passagers sont tombés dans une embuscade tendue par ces hommes. Les victimes ont été dépouillées de tous leurs biens avant d'être abandonnées dans la brousse, précise le chef de secteur de cette entité coutumière. Katalo Takumara indique que cela porte à 18 le nombre des personnes qui sont victimes de cette barbarie des éléments de la FRPI. Il demande au gouvernement central d'accélérer le processus de désarmement de ces miliciens en vue d'en assurer leur prise en charge pour épargner la population de ces calvaires. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Du côté du Haut-Katanga, le commissaire provincial de la police annonce l'arrestation depuis le week-end dernier des 2 bandits parmi les évadés du cachot de l'Agence nationale des renseignements la semaine dernière à Lubumbashi. Ce sont les 2 têtes d'affiche de cette bande, des malfaiteurs qui sont entre les mains des services de sécurité, rapporte le général Louis Segon Karawa, le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga, est au micro de Jean Gandou.
La police avait mis la main sur 2 individus, plus une femme, dans le quartier Bongonga. Ils nous ont montré d'autres cartes d'identité pour cacher leurs vraies identités. Après plusieurs interrogatoires, ils sont passés aux aveux. Les chefs de bande et son adjoint, tous 2, sont entre les mains des services. Un bon citoyen est venu nous informer qu'il y avait des gens suspects qui étaient dans les quartiers. Comme ça que nous sommes allés demander une franche collaboration de la population. Nous allons cacher nos sources pour simplement que nous puissions arriver à mettre la main sur tous ces malfrats. Je rassure la population que d'ici peu, nous pouvons mettre la main sur les autres. La police fait son travail. Après, nous déférons devant les juridictions compétentes. Je pense qu'à leur niveau, ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces gens ne puissent pas s'évaporer. Maintenant, là, ils sont en un lieu très, très sûr. Les interrogatoires continuer pour chercher à mettre la main sur les autres qui sont en cavale.
Entre-temps, au Kasaï oriental, la ville de Mbujimayi enregistre actuellement des cas de justice populaire. Un présumé bandit a été brûlé vif tôt ce mardi matin, non loin de la place Bonzola, commune de la Kanchi. Hier, un autre suspect a également été brûlé vif au quartier Kasavubu, dans la commune de Dibindi. Le maire de Mbujimayi fustige ce comportement. Lui donne Tumba met ainsi en garde et promet de traduire en justice les chefs des quartiers et des cellules où ces actes seront à nouveau enregistrés. Lui donne Tumba Chiapota, joint par Esther Ndalafina.
C'est contre la loi. La population ne doit pas se faire justice. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a volé ou qui a commis une faute grave dans la population, on doit le maîtriser et le conduire devant les cours et tribunaux, donc notamment devant la police, dans un premier temps. Donc on ne doit pas se faire la justice. Donc ça devient monnaie courante. Avant-hier, j'ai appris encore qu'il y avait un autre cas du côté de Kasavubu là-bas. On a brûlé encore un monsieur. Donc on a brûlé même des innocents. Il suffit seulement que quelqu'un soit arrêté la nuit, qu'on le traite de voleur et on le brûle. Et on ne trouve pas de raison. Donc la formule, c'est d'arrêter de conduire devant les instances judiciaires. Donc j'attire l'attention particulière de tous ces membres des quartiers et des communes, particulièrement les chefs des quartiers et les chefs des cellules. Lorsque nous allons trouver quelqu'un de brûlé dans un quartier, dans une cellule, nous allons rendre le responsable de ces cellules responsable de cette situation-là et il répondra de ses actes devant les instances judiciaires.
Direction le Kasaï central. Caritas Congo mène depuis quelques semaines un projet d'aide d'urgence multisectorielle en territoire de Luisa et de Kazumba. Ce projet consiste en l'appui à la sécurité alimentaire, l'amélioration en eau potable et la distribution des articles ménagers à plus de 3000 familles vulnérables. Le coût, 2 700 000 euros du gouvernement allemand. Blaise Nongala.
Ce projet qui se clôture en février 2022 cible les déplacés internes, les retournés d'Angola et autres populations vulnérables des territoires de Luisa et Kazumba. Il est exécuté dans les zones de santé de Luisa, Tshibala et Yangala en faveur d'environ 3350 ménages. Environ 1800 familles bénéficient de l'appui alimentaire alors que 1550 autres reçoivent des articles ménagers essentiels. Dans le cadre de ces projets, Caritas Congo améliore l'approvisionnement en eau potable et réhabilite quelques centres hospitaliers. Cet ASBL distribue également des articles ménagers essentiels aux familles vulnérables après les avoir sensibilisés sur les mesures préventives de la COVID-19. Ces activités sont complétées par 2 autres volets du dit projet, dont la lutte contre la malnutrition chronique dans les territoires de Luisa et Kazumba. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'aide d'urgence aux familles touchées lors de la crise sécuritaire de 2016 et 2017. Il est financé par le ministère allemand des Affaires étrangères à hauteur de plus de 2 700 000 euros. De Kananga, Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Ghana. Il y a 4 ans, la gratuité des écoles secondaires était l'une des promesses de campagne du président Nana Akufo-Addo. Elle a ainsi permis à plus de 430 000 jeunes d'être scolarisés au collège et au lycée. Ils étaient à peine 300 000 en 2016. Cette scolarisation massive a provoqué une surpopulation dans les écoles, obligeant les élèves à aller en classe à tour de rôle, et les critiques fusent contre ce système par rotation. C'est ici le retour sur une mesure populaire, mais qui attise le débat à moins de 2 semaines de la présidentielle au Ghana. Donald Trump a annoncé hier en début de soirée qu'il permettait l'ouverture du processus de transition vers l'administration de Joe Biden. Cela, plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire du candidat démocrate, dont l'équipe a salué une étape permettant plutôt un transfert du pouvoir pacifique. Donald Trump a autorisé ainsi l'administration américaine à opérer le processus de transition pour le président élu Joe Biden, lui donnant accès à des fonds et des comptes rendus, alors même que le président sortant a promis de continuer à contester les résultats de la présidentielle du 3 novembre.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. Lancement depuis vendredi dernier des projets du Fonds de cohérence pour la stabilisation à Uvira, lancé par 3 consortiums menés par ZOA, Corded et Interpeace en partenariat avec la MONUSCO et le STAREC. Ces projets seront mis en œuvre dans la zone prioritaire incluant la plaine de la Ruzizi, les moyens et les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga Itombwe. Pour en parler, nous recevons le ministre provincial Rodin Aouti du plan. Il répond aux questions de Fiston Goma.
Bonjour Rodin Aouti, vous êtes ministre provincial du plan. Vous avez procédé au lancement officiel des projets ayant trait à la stabilisation au sud du Sud Kivu. Quelles sont les grandes lignes de ces projets?
Ces projets ont été issus d'une analyse des dynamiques des conflits que sévissent cette zone. Et de ces analyses, on a compris que les grands facteurs qui sont à la base des conflits, c'est la présence de groupes armés dans la zone. D'abord, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a cette absence de l'autorité de l'État qui a des conséquences sur la gouvernance locale, qui a des conséquences sur tout ce que nous connaissons comme dualité du pouvoir et même sur la cohabitation pacifique des communautés. Et troisièmement, c'était beaucoup plus des questions liées à des conflits de gouvernance foncière, beaucoup plus orienté vers le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs et qui génère en fait le conflit entre les communautés, entre le sud, parce que ici, quand vous parlez éleveur, vous parlez une communauté de Banyamulenge, quand vous parlez agriculture, vous parlez d'autres communautés, les Babembe, les Bafoulir. Maintenant, ces communautés ne sont pas mises ensemble à cause de cette tension qui existe. Et donc, c'est sur base de cette analyse des dynamiques de conflit, et beaucoup plus orienté aussi vers la continuité du projet précédent qui a organisé un dialogue ici à Uvira. Et de ce dialogue est issu un plan d'action. C'est par rapport à ce plan d'action que nous avons pu récolter tous ces éléments et aujourd'hui orienter ce projet à ces 3 piliers.
Quel sera le rôle que jouera le gouvernement provincial ou l'État congolais?
D'abord, c'est l'État congolais qui a mis en place, qui a demandé ces fonds à travers la stratégie 4S pour financer le projet. Et qu'aujourd'hui, l'État congolais est appelé à accompagner ces acteurs pour effectivement qu'il y ait stabilisation dans notre zone.
Vous avez suivi dans les échanges, ce sont des projets très ambitieux, mais il y a encore des réticences au sein de la population. Le fait qu'il y a eu auparavant d'autres projets réalisés dans le même sens de stabilisation, mais qui ont disparu, qui n'ont même pas laissé des traces aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme assurance dans le mécanisme de suivi et évaluation de ces projets?
Le projet de stabilisation est différent des autres projets, par exemple de développement durable ou de projets humanitaires. L'humanitaire, vous venez, vous distribuez des vivres, vous distribuez de ceci, vous allez faire l'évaluation. Il y a des gens qui vous disent, j'ai obtenu autant de sacs de maïs, autant de sacs de ceci, autant de non-vivres, ainsi de suite. Le projet de développement, ce sont des projets qui sont basés sur des réalisations physiques et visibles. Mais le projet de stabilisation, ce sont des projets qui sont beaucoup plus basés sur le dialogue démocratique. Et lorsqu'on fait un dialogue, on termine un dialogue, les gens pensent qu'il n'y a pas des avancées. Actuellement, je peux vous dire que nous avons des avancées très significatives dans le cadre d'un programme de stabilisation dans cette zone. Il est vrai que le dialogue est toujours permanent. Ces dialogues ne peuvent pas se dire que parce qu'on a fait un premier dialogue, c'est fini et on s'arrête là. Non, il faut évoluer. Parce que dans le dialogue, comme nous l'avons vécu, le premier dialogue, il y a eu des points de convergence que toutes les communautés, mais aussi il y a eu des points de divergence. Pour le point de convergence, le projet va consolider. Et le point de divergence fera objet des seconds dialogues qui vont permettre à ce que les communautés se mettent ensemble et nous convergeons tous vers la même direction, et c'est la direction de la recherche de la paix. Des indicateurs de suivi vont nous permettre à vérifier la mise en œuvre de tous les objectifs et la mise en œuvre des activités prévues. Et cette feuille de route fera objet d'un plaidoyer et au sein du gouvernement pour une appropriation politique et un ancrage institutionnel, mais aussi un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour appuyer des programmes et des projets de stabilisation dans ces zones qui touchent beaucoup plus la démobilisation et la réinsertion communautaire des groupes armés.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci, je vous en prie.
Rodin Aouchi, ministre provincial du Plan au Sud Kivu, était avec Fiston Ngoma. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, coordination de Élisée Tshikota Tshivweta. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde et Belinda Bosuma à la présentation. Merci.